Chapitre 36. Je n'étais pas certain de réussir à alimenter une conversation tout l'après-midi, mais le décalage horaire m'a épargné cet effort. Daphné a pris une douche, puis s'est écroulée dans la chambre d'amis. Qu'on ne vienne pas me raconter que seuls les hommes ronflent. Les voisins doivent désormais croire que j'élève un cochon, voire plusieurs. Toutes mes questions sur ce qu'elle a ressenti durant son périple sont restées sans réponse. Mais ce n'est pas plus mal parce que, d'après le peu qu'elle m'a confié, son retour n'est pas un choix enthousiaste. Développer n'aurait sans doute fait que retourner tout un assortiment de couteaux dans ses nombreuses plaies. Quand, en début de soirée, elle a enfin émergé, j'ai eu le plus grand mal à la convaincre de ressortir. Il a fallu que je lui raconte que son éternel complice, Emma, avait finalement réussi à se libérer et nous attendait pour un dîner en petit comité. Cette perspective a cependant failli ne pas suffire. Daphné a tenté de reporter, prétextant la fatigue. Pas envie de se rhabiller. Peut-être n'avait-elle pas la force de se confronter immédiatement à ce que d'autres avaient pu construire en 3 ans. Emma vit en effet en couple et son premier enfant vient d'avoir 1 an. La vie des autres est souvent un miroir cruel. J'en sais quelque chose. Pas question pour autant de la laisser déjouer le plan que ceux qui l'aiment sont en train de finaliser en ce moment même. À mon grand soulagement, nous nous sommes enfin mis en route. Sachant ce qui l'attendait, j'ai été obligé de faire de vrais efforts pour contenir mon excitation. En approchant de l'adresse, j'étais tellement agité que, pour me calmer, je me suis astreint à penser à ma propre mort. Très efficace. Du coup, en lui tenant la porte du resto, j'avais la tête d'un mec forcé de pédaler plus vite pour alimenter la chaise électrique qui est en train de le tuer. Dès l'entrée, un serveur nous accueille et nous débarrasse. Par réflexe, Daphné s'adresse à lui en anglais. Elle découvre l'endroit déjà rempli de clients. Bien qu'ayant bourlingué, elle semble épatée par l'originalité et le charme du lieu. La salle est aménagée comme le serait l'intérieur d'une immense cabane. Un vrai rêve de gosse. Une atmosphère aux antipodes des lieux standardisés sans âme. Des planches récupérées habillent les murs, tout a l'air bricolé et envahi d'un bric-à-brac foisonnant sorti d'un vieux grenier. Des meubles épais en bois brut, dont pas un n'est semblable aux autres. Des niches remplies de curiosités chinées et joliment éclairées renvoient à des époques rassurantes. Étonnant mélange qui condense tout ce qui fait l'esprit des granges, des ateliers et des repères secrets où l'imagination peut se déployer. Il y a tant de recoins que le regard se perd. Chaque espace regorge de détails charmants, d'objets étonnants qui s'entassent ou pendent du plafond. L'ambiance ne naît pourtant pas seulement de cette mise en scène décalée. De jolies fenêtres rustiques ouvrent sur un vaste panorama de montagnes enneigées. On a beau se douter que ce sont des écrans qui diffusent ces images au-delà du décor, la magie opère complètement. Nous voici transportés dans un chalet isolé, loin de la ville. La neige se met à tomber. Alors que nous nous avançons, la lumière évolue progressivement et ce sont maintenant les grands arbres d'une profonde forêt que nous apercevons par toutes les ouvertures. Le chant des oiseaux a remplacé le vent des sommets et fait tendre l'oreille aux affamés déjà attablés. Le cadre paraît offrir un véritable dépaysement à Daphné. Au fond de la salle, Emma vient de se lever et nous fait signe. Nous longeons le comptoir, lorsque soudain Daphné s'arrête, les yeux écarquillés. À une table, elle vient de reconnaître son père. Sous le choc de cette apparition, elle découvre alors sa mère, assise en face de lui. La voilà prise de tremblement. Sa maman se lève, le regard embué, et vient la serrer dans ses bras. L'émotion des retrouvailles est décuplée par l'effet de surprise. Des années que tous les trois ne se sont pas vus en chair et en os. Incapable de prononcer une parole, Daphné émet de petits couinements. Je ne pensais pas qu'un être humain pouvait produire de pareils bruits. Je ne suis peut-être pas le seul raton laveur à avoir pris forme humaine. Tout en étreignant ses parents, Daphné identifie à présent de nouveaux convives dans l'assemblée, puis d'autres encore. Elle prend progressivement conscience qu'elle connaît tous ceux qu'elle avait d'abord pris pour de simples clients. Son visage passe de la sidération à une expression de joie absolue. Elle couine encore plus. Tous ses proches réunis finissent par se lever pour l'applaudir. La vague sonore ne cesse de monter, elle la porte, l'emporte. Certains poussent des cris, d'autres lui souhaitent un bon retour ou lui braillent leur affection. Pour l'occasion, son frère a même fait le voyage depuis la Suisse. Les amis de notre bande sont parmi les plus tapageurs, quelques-uns de ses copains d'enfance sont présents, et même une de ses anciennes institutrices que j'ai réussi à retrouver. Romane est venue, elle aussi, avec son fils. Tous ceux qui faisaient la vie de Daphné avant son départ sont là, remplissant la salle jusqu'au fond. Un vrai mariage, sans mari. Je recule de quelques pas et j'observe. Je suis presque aussi ému qu'elle. Mon plan a fonctionné. Tout le monde a joué le jeu pour la surprendre. Les invités se succèdent dans ses bras. Elle disparaît sous les étreintes, se noie dans les larmes de joie. Si d'aventure un jour nous devons expliquer qui nous sommes aux habitants d'une autre galaxie, je vote pour qu'on leur montre ce genre de bonheur. Devant ce spectacle, je me sens profondément vivant et en phase avec mes semblables. Je suis heureux pour Daphné, mais aussi pour tous ceux qui sont là ce soir. Quand vous partagez des instants pareils, quelque chose de régénérant s'infiltre en vous. Vous vous souvenez soudain de tout ce pourquoi cette vie vaut la peine d'être vécue. Et on vient seulement d'arriver.